18h-19h,
Sébastien Guyot sur Europe 1.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous accompagner tout ce mois de juillet dans le fauteuil de Philippe Vandel, à qui l'on souhaite d'ailleurs de bonnes vacances. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Dans un instant, le journal de Fabienne Lemoyle. Nous irons sur la route du Tour. Le français Alaphilippe est de nouveau en jaune ce soir, à la veille du 14 juillet. Le 14 juillet, justement, défilé sur les Champs-Élysées demain, vous entendrez le témoignage rare et poignant d'un soldat français blessé au Mali. Et puis Julien Bugier, à la tête de la spéciale de France 2, demain, sera notre invité média. Dans votre grand journal du soir, on va s'occuper de votre assiette, vos régions sur un plateau. Votre nouveau rendez-vous tout l'été avec Marion Sauveur, ce sera vers 18h50. Sans oublier la culture, aujourd'hui les 30 ans de l'Opéra Bastille à Paris. Il avait été commandé par François Mitterrand à Jack Lang. L'ancien ministre de la Culture sera avec nous vers 18h15. Et d'ailleurs, l'Opéra Bastille est-il moderne et populaire comme il était censé l'être? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez.
Et réagissez à l'émission sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et sur europe1.fr. Bienvenue à vous, il est 18h. Europe 1, le journal de 18h, c'est avec Fabienne Lemoyle et Sébastien Guyot.
Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Sébastien.
Au sommaire de votre journal ce soir.
Nouveau gros week-end de départ en vacances, bison futé à vue orange sur toute la France. Pas mal de bouchons dans la vallée du Rhône, nous serons à Montélimar. François de Rugy dans la tourmente, nous verrons comment l'opinion juge ses révélations à répétition. Les derniers entraînements de la patrouille de France qui ouvrira le défilé du 14 juillet demain. Et puis la tempête Barry qui menace la Louisiane qui vient de passer en ouragan catégorie.
Mais on commence bien sûr avec le Tour de France. Il aura vécu sans maillot jaune pendant 48 heures.
Eh bien, le Français Julien Alaphilippe, à la veille du 14 juillet, va de nouveau arborer ce soir à Saint-Étienne ce maillot jaune, Axel May.
Oui, à une fin d'étape totalement folle, conclue par cette reprise du maillot jaune par Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe en jaune à la sauce panache. Rendez-vous compte, il y avait un seul homme encore en tête, Thomas de Rent, rescapé de l'échappée matinale. Il restait une difficulté à gravir. Et là, voici Julien Alaphilippe qui part tout seul avec Thibaut Pinot. Pinot, Alaphilippe, les deux font la course derrière le Belge de Rent qui gagne l'étape, mais Alaphilippe au jeu des bonifications, et puis comme il prend suffisamment de temps de toute manière, récupère ce maillot jaune ce soir. Il a 23 secondes d'avance sur celui qui était maillot jaune hier, Ciccone, l'italien. Plus intéressant encore, Thibaut Pinot revient bien au classement général puisqu'il est ce soir 3e du classement général. Autrement dit, une veille de 14 juillet parfaite pour les Français. Julien Alaphilippe en jaune, Thibaut Pinot 3e au classement général.
Axel May sur la route du Tour que l'on retrouvera bien sûr juste après le journal de 19h pour le Club Tour avec Thomas Vauclair.
Ce soir, Europe 1 vous accompagne sur la route de vos vacances en ce nouveau week-end de départ.
Alors, on avait quitté notre reporter Romain Oquet alors qu'elle venait de passer Lyon. C'était dans le journal de la mi-journée. Vous nous disiez, Romain, que vous redoutiez un après-midi difficile alors que ça avait plutôt bien roulé ce matin pour ce week-end en orange. Alors, vous en êtes tout de votre descente de la vallée du Rhône vers les plages de la Méditerranée?
Alors je suis pour l'instant sur l'aire de Montélimar et je vous confirme, le trajet de l'après-midi a été laborieux. De Lyon, j'ai mis une heure de plus que d'habitude et sur la route, je n'étais pas la seule à trouver le temps long, c'était aussi le cas d'Hichem.
Le trajet, il est insupportable, c'est en accordéon. Ça roule d'un coup, on s'arrête net et ça repart. Le pourquoi du comment. Alors aujourd'hui, contrairement à non, je suis hyper calme et c'est madame qui s'énerve à côté.
De mon côté, pour éviter les bouchons, je suis passée par des itinéraires bis, notamment la fameuse Nationale 7. C'était quand même chargé car d'autres ont aussi écouté leur GPS, comme Irina qui roule depuis Calais.
Comme là par exemple, autour de Lyon, le GPS nous a fait un détour à travers Vienne. Ça roulait bien quoi. Tandis qu'on voyait l'autoroute de notre gauche qui était assez serrée. On prend notre temps, on s'arrête, on écoute les cigales.
Certains commencent pourtant à trouver le temps long. Les enfants qui, pour beaucoup, ont terminé la sieste de l'après-midi. Sur l'aire de jeu, Jennifer joue avec son fils et visiblement, il déborde d'énergie.
On appréhende un peu la deuxième partie du trajet. On fait des choses pas top. On lui donne un peu le portable, les vidéos pour bébé. Vous plaidez coupable?
Ah oui, totalement. Mais ça le calme, du coup, il reste un peu plus calme. Et, voilà.
Alors je viens de regarder, Fabienne, plus que 180 km avant la Grande Motte, mon point d'arrivée où l'eau est à 24 degrés.
Et on vous souhaite bon courage et pourquoi pas un bon bain de mer à votre arrivée, bah, Romain Oquet.
Bien sûr, l'actualité ce soir, c'est également la pression qui ne retombe pas pour François de Rugy.
Dernier épisode en date, le site Mediapart qui dit que le ministre n'a pas payé d'impôts sur le revenu quand il était député en 2015, réplique dès hier soir de François de Rugy. C'est parce qu'à l'époque, comme tous les parlementaires d'Europe Écologie Les Verts, il faisait don d'une part de son salaire à son parti. Alors comment l'opinion publique juge-t-elle ce qui est en train de devenir le feuilleton de Rugy entre dîner fastueux et travaux de rénovation? Pierre Herbulot a tendu son micro près de l'Assemblée nationale.
Que ce soit la rangée de colonnes de la façade, la grande bibliothèque ou les places servies lors des dîners, tout ce qui concerne l'Assemblée nationale intéresse Magali.
Bien sûr que ça m'intéresse de savoir comment l'argent de mes impôts est dépensé, sachant qu'en plus on doit faire des économies de toutes parts, effectivement.
François de Rugy s'est engagé à rembourser tout euro contesté. Alors d'après Christiane, l'affaire est classée.
Quand on voit les responsabilités des politiques, on est là à dire il faudrait qu'ils mangent, vous voyez, des frites ou de la purée tous les jours, ou des pâtes. Arrêtons aussi.
Le problème, surtout pour Charles, c'est que ce feuilleton de Rugy alimente la défiance envers les hommes politiques.
C'est pas parce qu'il y a un cas que l'ensemble de la classe politique est dans cette configuration.
Et effectivement, Jacques, qui passait par là, n'est plus très loin de penser tous pourris.
Je dirais beaucoup de pourris. Pas tous, mais beaucoup. Les gilets jaunes ont de quoi hurler. Moi, je comprends tout à fait ça. Bon. Le faste, les dépenses somptueuses, non, trop c'est trop. Hein.
Pour lui, le mérite de cette nouvelle affaire, c'est que maintenant les élus réfléchiront à deux fois avant d'organiser des dîners avec du homard et des grands crus.
Pierre Herbulot, le Fouquet's a rouvert ses portes après 4 mois de travaux. Aujourd'hui, il a accueilli ses plus fidèles clients avant la grande ouverture au public demain. La direction n'a pas donné le montant des travaux pour remettre à neuf l'établissement vandalisé lors de la crise des Gilets jaunes. C'était en mars dernier.
Europe 1. À suivre, c'est la Patrouille de France qui va ouvrir le bal demain sur les Champs-Élysées. Justement, Frédéric Michel a suivi les derniers entraînements dans le sud. On vous y emmène.
18h-19h, votre grand journal du soir avec Sébastien Guyot sur Europe 1.
La suite du journal. C'est
à 18h07, bien sûr, avec vous Sébastien Guillaume et Fabienne Lemoyle.
Fabienne, les innovations, la coopération européenne et les blessés à l'honneur du défilé du 14 juillet demain.
Et une fois encore, ce sont les hommes de la Patrouille de France qui ouvriront le bal et qui seront particulièrement attendus par les spectateurs. Cet après-midi, ils s'entraînaient encore. Nous avons aperçu dans le ciel, depuis les fenêtres d'Europe 1, le panache bleu, blanc, rouge des avions de la Patrouille. On se souvient que l'an dernier, les pilotes s'étaient un peu emmêlés des pinceaux avec leurs couleurs. Des pilotes dont Frédéric Michel a suivi les derniers entraînements dans le Var. Et où rien, vous allez l'entendre, n'est laissé au hasard.
L'image est toujours impressionnante. 9 Alpha Jets parfaitement alignés passant au-dessus de l'Arc de Triomphe et des Champs-Élysées. Comme chaque année, les hommes de la Patrouille de France ouvriront le défilé du 14 juillet. Leur leader, le commandant Clément.
C'est le moment le plus important. C'est une mission qui est compliquée. Elle peut paraître simple comme ça. L'erreur de l'année dernière montre bien que ce n'est pas aussi simple.
Les couleurs.
Les couleurs, tout à fait. Et donc, c'est une mission qu'on aborde avec beaucoup d'humilité, qui est très importante. On va défiler au-dessus de notre plus haute autorité, aux côtés de nos frères d'armes. Et ce n'est pas si simple d'amener 9 avions à la seconde près, parce que c'est bien ce qui nous est demandé, à la seconde près sur un point très précis.
Des entraînements toute l'année, des dizaines de représentations au printemps et à l'été. Les pilotes de la Patrouille de France ne sont pas tout seuls. Autour d'eux, toute une équipe, notamment des mécaniciens, comme l'adjudant-chef Marie-Hélène qui sera à Paris demain.
C'est le moment de montrer notre savoir-faire, notre présence à la population. Moi, j'ai eu la chance de faire 3 fois le 14 juillet dans les troupes au sol en défilant, et cette année je vais pouvoir le faire à la préparation des avions sur la base de Villacoublay, et ça c'est juste exceptionnel.
Exceptionnel comme les figures proposées en spectacle. À plus de 600 km/h, les Alpha Jet se croisent, se suivent à 1 mètre de distance et forment un cœur bleu, blanc et rouge.
Frédéric Michel dans le Var pour Europe 1.
À l'étranger, tous aux abris en Louisiane depuis hier.
L'État du sud des États-Unis a encore en mémoire le désastre causé par l'ouragan Katrina avec les digues qui avaient cédé. C'était en 2005. Aujourd'hui, c'est Barry qui inquiète et Barry, qui est désormais officiellement un ouragan, Jean-Sébastien Soldaini.
Un ouragan de catégorie 1 sur une échelle de 5. La tempête s'est renforcée à l'approche des côtes américaines. Pour l'instant, Barry est encore au-dessus des eaux chaudes du golfe du Mexique et devrait toucher le continent dans les minutes qui viennent avec des vents à 120 km/h. Ce n'est pas exceptionnel. D'ailleurs, ce n'est pas ce qui inquiète le plus les autorités. Ce qui préoccupe, c'est la combinaison de plusieurs facteurs. Les fortes pluies attendues, 50 cm dans les prochaines heures. Et là où cela pose problème, c'est que le sol est déjà gorgé d'eau. De récents orages ont saturé les sols. Et puis, il y a toujours ce phénomène qui accompagne les ouragans. La montée du niveau de la mer, cela pourra aller jusqu'à 1,80 m. Dernier facteur aggravant, la vitesse de déplacement de l'ouragan. Il est très lent, c'est-à-dire que ce phénomène va durer jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Les digues qui retiennent les eaux vont être mises à rude épreuve. Celles qui entourent la Nouvelle-Orléans devraient tenir, assurent les autorités, mais d'autres villes moins protégées pourraient être submergées. C'est le cas de Morgan City, totalement évacuée à l'heure actuelle.
Jean-Sébastien Soldaini.
C'était le journal de Fabienne Lemoyle. Merci Fabienne.
Europe 1, 18h10.
La météo ce soir, c'est avec Laurent Cabrol. Laurent, qu'est-ce qui nous attend demain pour le 14 juillet ?
Eh bien, disons-le. Allez, demain, ce sera un 14 juillet au soleil sur quasiment toute la France. Alors bien sûr, il y a des réserves à installer sur cette carte, notamment sur le Nord, les Ardennes, la Lorraine. Nous aurons des passages nuageux demain matin. Et ces passages nuageux vont glisser dans l'après-midi sur l'Alsace, la Franche-Comté et le Massif Alpin, en donnant parfois des orages. Bon, là, ce sont des petites nuances. Une nuance importante quand même sur la Corse, où ça va se gâter en deuxième partie de journée. Autre nuance sur les Pyrénées, où nous aurons là aussi des orages et puis des petites pluies sur le piémont pyrénéen. Le soleil maintenant.
Ah oui.
Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, région parisienne, Centre, Poitou-Charentes, Bourgogne, Vallée du Rhône, le Massif central dans son ensemble et le littoral méditerranéen. Bon, allez, ça sera pas trop mal. Les températures demain vont s'échelonner entre 20 et 32 degrés, 22 à Lille, 26 à Paris, 29 à Nantes et 30 degrés à Bordeaux.
Bon, c'est pas si mal tout ça. Merci Laurent Cabrol.
Le journal des sports.
Le journal des sports, c'est avec Christophe Lamarre. Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Et du cyclisme, bien sûr, le Tour de France. Un Belge qui s'offre la 8e étape, mais Julien Alaphilippe reprend le maillot jaune.
Pour une poignée de secondes, voilà un scénario que n'aurait pas renié le maître du western spaghetti Sergio Leone. Les Monts du Forez prétextent un règlement de compte entre Cadors. Ça a flingué dans tous les sens, comme au Far West. Le Belge Thomas de Gent remporte l'étape, mais le véritable hold-up, c'est Julien Alaphilippe qui le réalise. Axel May, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux sur la route du Tour. Et on retrouve tout de suite Julien Alaphilippe.
J'ai vraiment tout donné, j'étais très content de voir Thibaut dans ma roue. Et voilà, à la fin, on a allié nos efforts. On avait chacun nos intérêts, hein, lui pour creuser l'écart sur les favoris et moi pour récupérer le maillot. Donc non, c'est une belle journée, je suis très content. Non, c'est incroyable. Ouais, je pense que quand on y a goûté, on est déçu hein, quand on le laisse. Donc 6 secondes, c'était beaucoup et pas grand chose à la fois. Donc j'avais rien à perdre, j'ai pris les risques qu'il fallait prendre et je suis content que ça ait marché. Quoi.
Et Julien Alaphilippe au micro d'Axel May, 9e étape demain entre Saint-Etienne et Brioude. Et Julien Alaphilippe donc sera en jaune.
Et Thibaut Pinot sur la troisième marche du podium. On est pas mal quand même.
Oui, on est pas mal.
Le tennis, elle court Serena après le record de Margaret Court. Mais ça ne sera pas pour cette fois.
Simona Halep remporte son premier Wimbledon un an après sa victoire à Roland-Garros. La Roumaine a surclassé l'Américaine en 2 manches et 55 minutes, 6-2, 6-2. À 37 ans, Serena Williams laisse s'échapper une nouvelle occasion de rejoindre l'Australienne Margaret Court au nombre de titres en Grand Chelem. Son compteur reste pour l'instant bloqué à 23.
Et demain, Federer Djokovic. La Formule 1. Lui aussi court après les records, mais cette fois, la pole lui échappe.
Le Britannique Lewis Hamilton laisse la pole position au Finlandais Valtteri Bottas, mais les Mercedes monopolisent la première ligne du Grand Prix de Grande-Bretagne. Le Monégasque Charles Leclerc sur Ferrari prend la troisième place. Max Verstappen sur Red Bull s'élancera en quatrième position. Le premier Français Romain Grosjean est 14e, départ du Grand Prix demain à 15h10, heure française.
La natation, Christophe, une première médaille pour la France aux Mondiaux de Yeosu en Corée du Sud.
Logan Fontaine prend l'argent sur l'épreuve du 5 km en eau libre. C'est l'ange champion d'Europe Christophe Razovski qui l'emporte. Mais pour le Normand, la satisfaction de ramener une médaille efface tout le reste.
Ça fait super plaisir. Après, je suis pas venu là pour enfiler des perles non plus. Je veux dire, on a bossé pour ça. Le plaisir sur l'année, ça a été de se remobiliser après la déception sur le 10 km. Mais ça fait plaisir en cette fin d'année.
Voilà, il n'est pas venu pour enfiler les perles. Un petit peu comme vous, Logan Fontaine, au micro de Burquoise.
Le reste de l'actualité sportive, s'il vous plaît, rapidement.
Le rugby à 7 féminin, tout va bien pour les Françaises qui battent la Pologne et s'offrent un troisième succès en 3 matchs. Les Bleus sont en tête de leur poule et donc bien partis dans la course à la qualification pour les Jeux de Tokyo.
C'était le journal des sports perlés de Christophe Lamar. Merci.
Europe 1.
Dans un instant, vous restez avec nous. Notre premier invité va nous rejoindre, Jack Lang. Il y a 30 ans, jour pour jour, était inauguré en grande pompe l'Opéra Bastille, tant décrié. Nous lui demanderons s'il trouve que son bébé a bien grandi. A tout de suite.
Sébastien Guyot sur Europe 1. Bonne soirée avec Europe 1 et votre grand journal du soir. La suite, Sébastien Guyot avec votre premier invité.
Ce fut un événement quasi planétaire il y a 30 ans, jour pour jour, ici à Paris, quasiment à cette heure-là. L'Opéra Bastille était inauguré. Avant d'accueillir notre invité, je vous propose une petite archive Europe 1 d'un certain François Baroin.
C'est Ruggero Raimondi qui a ouvert hier soir le spectacle inaugural de l'Opéra Bastille la nuit d'avant le jour. Une première placée sous le signe de l'émotion.
Émotion, ovation aussi, ce 13 juillet 1989 pour François Mitterrand. À ses côtés, George Bush, Margaret Thatcher, Helmut Kohl, une trentaine de chefs d'État au total, 2700 invités. Et bien sûr, vous, Jack Lang, bonsoir.
Bonsoir.
C'est à vous, en tant que ministre de la Culture, que François Mitterrand avait commandé un opéra moderne et populaire, c'était ça, hein, l'intitulé de la commande. Vous allez me dire 30 ans après que le pari est réussi, que le contrat est rempli, mais honnêtement entre nous, populaire l'opéra, on se trompe d'adjectif, non? C'est toujours élitiste.
Si vous n'entendiez pas populaire, l'idée que la totalité des citoyens de France et de Navarre iraient à l'opéra, en effet, ce n'est pas populaire dans ce sens. D'ailleurs, aucune institution culturelle n'est populaire.
La fête de la musique que vous avez créée.
La fête de la musique, oui, parce que là c'est autre chose, parce que les citoyens, c'est ce que j'ai voulu d'ailleurs, sont acteurs de l'événement.
Oui, mais l'opéra ne l'est pas aujourd'hui.
Oui, mais il y a eu quand même des progrès gigantesques. À l'époque, lorsque j'ai vraiment voulu, s'il était un projet pour lequel je me suis bagarré contre vents et marées, c'est la construction de l'Opéra Bastille.
Ça a failli jamais voir le jour.
Ah non, ça a failli se casser la figure 10 fois, 20 fois. Et à ce moment-là, je partais de la constatation que le Palais Garnier, magnifique édifice, ne donnait que quelques représentations par an. Pourquoi ? Parce qu'il était obligé d'être en même temps salle de répétition, pour le ballet, pour l'orchestre, pour les spectacles, pour les petits rats de l'opéra. Bref, on étouffait à l'intérieur de Garnier. Et mon raisonnement, qui n'était pas le mien seul, c'était celui de Pierre Boulez et de tous les vrais passionnés d'opéra, était que si on ne construisait pas un nouvel opéra, l'opéra déclinerait.
Et donc là, en effet, il y a plusieurs salles. Il y a une salle, une arrière-salle aussi grande que la première qui permet de faire des répétitions. Donc ça, c'est l'avantage. L'acoustique aussi est exceptionnelle à l'Opéra de Paris. Malgré tout, il y a eu d'énormes critiques. Souvenez-vous de ce que disait un certain Pierre Berger à la tête des Opéras de Paris à l'époque.
Ces querelles sont derrière nous. Toute cette bataille épouvantable entre directeur musical, opéra populaire, pas opéra populaire. Enfin, tout ce qu'on a dit, c'est terminé, l'opéra ne devait pas ouvrir, eh bien il va ouvrir, je ne devais pas avoir des directeurs musicaux, eh bien j'en ai un, on ne sait pas quand on ouvrirait la saison, eh bien elle s'ouvrira au début de 90, tout ça c'est clair.
Tout ça c'est clair, disait Pierre Berger, l'architecture notamment de l'opéra Bastille, conçue par le canado-uruguayen Carlos Haute, est toujours aussi décriée. Qu'est-ce que vous en pensez honnêtement de cette façade?
D'abord, je n'ai pas complètement répondu à votre première question, c'est qu'on est passé de 100 000... spectateurs à près d'un million. Le public s'est considérablement rajeuni. Il faut y aller. Hier soir encore, c'était assez éblouissant de constater que tous les âges se mélangeaient. Par ailleurs, il y a eu toute une série d'actions vers les quartiers populaires, en particulier les opérations collège au cinéma qui associent des jeunes de différents quartiers. Il y a eu l'effet Bastille sur les opéras de province qui aujourd'hui sont en pleine efflorescence. Donc, je dirais, l'opéra conquiert progressivement de nouveaux publics.
Alors, il y a eu les places à 10 euros aussi, mais aujourd'hui, il y en a très peu. C'est même 5 euros si on veut aller voir un opéra, mais on est debout, donc on voit pratiquement pas grand-chose. On s'appuie sur une barre molletonnée, c'est pas l'idéal non plus.
Non, écoutez, non, il y a beaucoup de places, je n'ai pas en mémoire les chiffres, mais il y a vraiment un grand nombre de places à 20 euros. Par ailleurs, le prix des places est l'un des plus bas de tous les opéras du monde. Beaucoup plus bas qu'à la Scala de Milan, beaucoup plus bas qu'à l'Opéra de New York. Il y a des progrès à faire. La vérité, c'est que le financement public a diminué, relativement. Et il a fallu faire appel à des mécènes privés. Alors, à un moment, la question est qui paye ?
Alors, vous ne m'avez pas répondu, en revanche, sur la façade. Vous en pensez quoi, vous, de cette façade ?
Non, cette façade, bon, elle est ce qu'elle est. Bon, elle s'est, progressivement, elle a été réadaptée. Elle a été adoptée, je dirais même. Et puis, ce qui est très important, c'est l'instrument de travail. Il est unique au monde, vous l'avez vous-même dit à l'instant. 4 plateaux, à l'identique du plateau, où vous pouvez monter à l'avance les décors. Bon, les salles de répétition. Il n'y en avait pas à Garnier. Donc, c'est unique au monde, un opéra dans lequel vous avez ces conditions de travail. L'acoustique, vous l'avez évoqué vous-même, est excellente à tel point que tous les chanteurs du monde veulent venir à l'opéra. L'orchestre de l'Opéra de Paris est le meilleur orchestre aujourd'hui du monde pour un opéra.
Donc 2019, vous êtes satisfait de ce qui est devenu votre bébé, comme il a grandi aujourd'hui à 30 ans ?
Oui, parce que pas grâce à moi seulement, grâce à tous ceux qui ont apporté une contribution. Pierre Berger, qu'on évoque à l'instant, qui est un grand ami qui nous a quittés. Il y a eu des crises. Pas seulement pour la construction ou le choix de l'architecte, mais aussi pour le choix de la direction artistique. Ça a été
compliqué, c'est
l'opéra bouffe.
Voilà, sans parler des grèves des techniciens lors des deux premières saisons, les différents financiers, les différents artistiques. Vous vous souvenez forcément de cette sortie de Françoise de Panafieux qui vous avait dit, alors qu'il n'y avait plus d'orchestre, votre opéra c'est le Titanic, l'orchestre en moins.
Absolument, d'ailleurs elle avait raison. C'était en 1988-89, dans cette phase de transition, avant la mise à feu. Et en effet, il y avait des crises pour le fonctionnement qui ont été, comme l'a rappelé tout à l'heure Pierre Berger, réglées par la nomination de ce grand chef coréen. Et j'avais envie d'ailleurs essayer d'écrire un livre qui se serait appelé « La revanche du Titanic
». La revanche du Titanic, mais il faut le faire.
Je vais le faire peut-être, grâce à vous.
Bon, l'avenir de l'Opéra Bastille, c'est également cette salle modulable qui va voir le jour. Je crois qu'il était d'ailleurs dans le projet initial. Hein.
Absolument, et c'est sur le qualificatif que vous rappeliez, c'était le qualificatif moderne, c'est-à-dire la possibilité de réaliser des expérimentations très nouvelles. Et je suis très heureux que l'État ait décidé de construire enfin ces salles modulables. Alors vous me direz pourquoi je ne l'ai pas construite moi-même,
alors que
je l'avais prévu,
mais
pour des raisons de tactique ou de stratégie.
C'est-à-dire
Nous étions en 83-84. Je savais qu'il y aurait alternance en 86. Mmh. Et je voulais créer l'irréversible. Je savais que l'opposition était hostile à l'opéra. Donc j'ai centré tous nos moyens, tous nos efforts vers la construction de la grande salle.
D'accord.
Et donc quand M. Chirac est devenu Premier ministre, il a tenté de raser tout ça. C'était un immense gâchis. Il faut rendre hommage à M. Léotard, qui, convaincu par François Mitterrand, a décidé courageusement de maintenir le projet.
Conclusion, Jack Lang, 30 ans après, l'Opéra de Paris, Bastille, devait être moderne et populaire. Vous qui avez le sens de la formule, aujourd'hui, c'est quoi ?
C'est un opéra qui est devenu, aujourd'hui, Paris est redevenu la capitale mondiale de l'art lyrique et de l'art chorégraphique. On n'a pas parlé du ballet, qui a été complètement transformé. On a construit une école à Nanterre avec Christian de Bordenpart pour les élèves de l'opéra. La chorégraphie s'est prodigieusement transformée. La présence de chorégraphes, et je dois dire que Noureyev, que nous avions nommé non sans polémique à la tête de l'opéra, a été un fabuleux transformateur. Voilà, je ne dis pas que tout est parfait. Il y a des choses à améliorer, des directions à prendre. Mais n'oubliez pas que ce qui est entrepris aujourd'hui pour faire apparaître de nouveaux chanteurs, de nouveaux musiciens, l'Académie de l'Opéra est une institution très originale. L'opéra dans les 100 ou 150 salles de cinéma, dans les mêmes conditions qu'à Paris, c'est fantastique. Et puis, je veux rendre hommage à tous les opéras de province, comme on disait naguère, qui aujourd'hui brille d'un nouvel éclat. Et je crois que l'effet Bastille a là aussi été un effet positif et tonique.
Une toute dernière question, vu que vous parlez de l'Opéra Bastille, de ses grands travaux sous François Mitterrand, vous étiez à la manette vous aussi, avec la très grande bibliothèque, le Louvre. Aujourd'hui, vous avez l'impression que Emmanuel Macron manque d'ambition sur ce plan-là ?
L'ambition n'est pas nécessairement la même. sous les divers présidents. Lui-même a pris à bras le corps le dossier de Notre-Dame et je m'en réjouis. Il a pris de bonnes décisions, je crois vraiment, à condition qu'on soit capable parallèlement de former les artisans, les restaurateurs dont nous avons besoin, et pour Notre-Dame et pour tous les monuments de France. Et puis, les grands projets, ce n'est pas nécessairement culturel, ça peut être scientifique, ça peut être aéronautique, comme l'avait fait le général de Gaulle. Donc, accordons du temps au président Macron pour concevoir tel ou tel projet. Je crois qu'il a le projet aussi de transformer le château de Villers-Cotterêts en un haut lieu de la francophonie. L'histoire n'est pas définitivement écrite.
Merci, merci à vous Jack Lang, merci d'avoir été avec nous pour évoquer les 30 ans de l'Opéra Bastille. Notez d'ailleurs que ce soir c'est la dernière de la saison avec le ballet Tree of Codes, reprise le 7 septembre prochain avec un opéra, Les Puritains de Vincenzo Bellini. Dans un instant, on parle du 14 juillet. Ne manquez pas le témoignage fort d'un soldat de l'opération Barkhane blessé au Mali. Il défilera demain sur les Champs-Élysées et il sera sur Europe 1 pour nous raconter son expérience, ses souffrances et ses espérances. A tout de suite.
Europe 1, Sébastien Guyot.
Dans la prochaine demi-heure, le maréchal des logis-chef Guillaume, blessé au Mali, sera avec nous avant son défilé sur les Champs-Élysées demain pour le 14 juillet. Nous recevrons également Julien Bugier, le joker du 20h sur France 2 cet été. Sans oublier votre rendez-vous gourmand de Marion Sauveur, vos régions sur un plateau. Mais d'abord, le rappel des titres, c'est avec Sophie Echène.
Le premier feu d'artifice depuis l'attentat meurtrier de 2016, ce soir à Nice, le 13 juillet et non le 14, à la demande des associations de familles de victimes. 86 faisceaux lumineux seront également projetés dans le ciel en hommage aux 86 personnes tuées dans l'attaque. 21 personnes placées en rétention administrative après l'occupation du Panthéon à Paris hier. À la mi-journée, près de 700 migrants ainsi que des membres de collectifs de soutien aux sans-papiers avaient investi les lieux. Au total, 37 personnes avaient été interpellées. Le fils de Latifah Ibn Ziaten, la mère de la première victime de Mohamed Merah, a été placé en garde à vue. Il aurait inventé l'agression dont il a été victime jeudi. En réalité, il se serait battu avec son colocataire qui est aussi son concubin. Une bagarre sous l'emprise de l'alcool. Aux États-Unis, la tempête tropicale Barry, qui approche de la Louisiane, s'est transformée en ouragan de catégorie 1. Il souffle actuellement à 120 km/h. Les habitants se barricadent. Plusieurs milliers de personnes ont été évacuées des zones côtières. Les obsèques de Vincent Lambert ce matin en Meurthe-et-Moselle, elles se sont déroulées dans l'intimité familiale. Tous les membres de sa famille, divisés sur son sort, étaient présents. Le maillot jaune de retour sur les épaules de Julien Alaphilippe au terme de la 8e étape du Tour de France aujourd'hui. Une étape remportée par le Belge Thomas Degen. Et puis l'écrasante victoire de Simona Halep en finale dame de Wimbledon contre Serena Williams, 6-2-6-2. L'américaine qui était à deux doigts de remporter son 24e titre en Grand Chelem.
Merci Sophie, à tout à l'heure. Un mot de la météo des plages avec vous Laurent Cabrol. Laurent, nos amis auditeurs en bord de mer sont plutôt chanceux. Qu'est-ce qui les attend demain ?
Commençons par l'Atlantique. Entre Brest et Bordeaux, des éclaircies, 27 à 29 degrés sur le sable, 19 à 21 degrés dans l'eau. Entre Bordeaux et Biarritz, sur la partie sud, 25 à 28 degrés en bord de mer, 20 à 22 pour la baignade et du soleil, un franc soleil. Manche et mer du Nord, ce sera du beau temps. Mais oui, avec 18 à 21 degrés sur le sable ou sur les galets, hein, 18 à 21. Et en mer, pour vous baigner, entre 19 et 20 degrés. Enfin, en Méditerranée, ce sera le grand soleil, 30 à 32 degrés, un petit vent marin bien sympathique, des températures de 22 à 24 degrés en ce qui concerne la température de l'eau, 22-24, et même 26 degrés sur la Côte d'Azur.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure pour un point météo plus global, ce sera dans le journal de 19h.
Belle soirée à tous sur Europe 1, votre grand journal du soir avec Sébastien Guyot.
L'actualité de ce week-end, c'est bien sûr le défilé du 14 juillet. Emmanuel Macron et Florence Parly organisent ce soir à l'hôtel de Brienne, qui abrite les bureaux de la ministre des Armées, une réception en l'honneur des troupes qui vont défiler demain sur les Champs-Élysées. Parmi les invités, des soldats blessés en opération extérieure. Bonsoir, maréchal des logis-chef Guillaume.
Bonsoir.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous avez 31 ans. Vous êtes membre du 121e régiment du train, c'est ça ?
Tout à fait.
Et vous serez demain matin sur les Champs-Élysées. Une première pour vous. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, votre histoire. L'histoire d'une blessure profonde. L'histoire symbolique de l'engagement des troupes françaises au Sahel contre le terrorisme. Il y a 3 ans, en juillet 2016, vous êtes au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane. Vous êtes à bord d'un VAB, un véhicule de l'avant blindé. Et là, sans prévenir, un engin explosif.
Je suis chef d'escorte. Le but étant donc de protéger les convois logistiques et malheureusement, les itinéraires sont très souvent piégés et donc j'ai sauté sur un engin explosif improvisé.
Et la voiture a sauté sur plusieurs mètres de hauteur ?
Le véhicule, oui, le VAB que j'avais, c'est un véhicule qui fait 14 tonnes. Il est monté à 2 mètres de haut.
Vous rendez compte de ce qui se passe à ce moment-là ?
Non, honnêtement, c'est très rapide. Puis ça secoue quand même dans tous les sens. Entre la montée, on est ballotté, hein, parce qu'on n'est pas sanglé, forcément. On sait ce qui se passe, mais on a plus de repères. Hein.
Est-ce que vous avez conscience à ce moment-là de l'étendue de vos blessures ?
Déjà, comme j'ai vu que ma jambe droite bougeait tout seul et qu'elle répondait plus, je savais qu'il y avait fracture. Où exactement, je ne savais pas, donc j'ai quand même touché. Mon treillis était poisseux, donc je savais qu'il y avait hémorragie aussi. J'ai décidé de commencer moi-même à m'extraire du véhicule sans attendre, étant donné que comme il y a hémorragie, il y a un risque vital.
Et vous êtes entraîné pour appliquer vous-même les premiers soins, c'est ça, avant que les secours arrivent ?
Oui, tout à fait. Dans le cadre des formations militaires, à tout niveau, hein, tout grade confondu, on passe les PSC1, donc comme le civil. Et en plus, on a un niveau propre à l'armée qui s'appelle le SC1, donc le secourisme au combat, où là, pareil, il y a différents niveaux. Donc moi, je suis niveau 1. Et on nous apprend donc déjà à faire des bilans personnels, entre guillemets, et si besoin, à pouvoir nous auto-prodiguer les premiers soins, en effet.
Alors, il faut imaginer que vous êtes en plein désert, le soleil brûle, et vous en faites les frais, hein, à tel point que ce retour d'expérience va être utile à vos camarades par la suite. Vous pouvez nous expliquer ?
Quand j'ai réussi à m'extraire avec l'aide d'un camarade pour finir de sortir du véhicule, le service de santé, ils sont intervenus sur moi. Et donc, pour pouvoir intervenir dans les bonnes conditions, il découpe les vêtements pour être sûr de rien rater en fait à cause des vêtements qui pourraient cacher des plaies ou autres. Et donc, je me suis retrouvé sur le sable entièrement nu. Et le problème étant que à 14 heures, voilà, il fait 70 degrés, donc le sable était vraiment brûlant. Et donc, ça m'a brûlé le triceps gauche. Ouais.
Alors les premiers soins vont vous être prodigués dans l'heure qui vient, puis vous allez être plongé dans un coma artificiel, transféré vers la France, à l'hôpital militaire de Percy. Quand vous vous réveillez, au bout de 5 jours je crois, vous réalisez où vous êtes, comment vous réagissez ?
Oui, alors c'est un coma qui a duré 5 jours, parce que sinon j'étais difficilement transportable, parce qu'il y avait eu déjà une première opération, et puis c'est quand même très douloureux. Donc ils m'ont mis en coma artificiel. Effectivement, quand on se réveille, c'est assez impressionnant parce que du coup, il y a des sondes de partout. Donc oui, la première, on est un peu angoissé, très honnêtement. Une fois que le choc est passé, que les infirmières arrivent très vite, hein, parce qu'elles ont l'habitude, on retire un peu tout, on nous rassure. Et le premier sentiment, c'est le soulagement parce qu'on est vivant. Et ensuite, je me suis rendu compte que j'avais mes deux jambes, donc c'était un deuxième soulagement.
Et 3 ans après, de quelles séquelles vous souffrez encore ? Est-ce que vous ressentez encore des douleurs ?
Les douleurs, elles sont malheureusement présentes en permanence, hein, pour nous rappeler ce douloureux souvenir. Actuellement, moi, j'ai plus de grand fessier, j'ai plus de nerf sciatique à droite, donc ça veut dire plus d'ischio-jambier qui fonctionne, plus de mollet qui fonctionne, pas de releveur de pied qui fonctionne. Donc je suis équipé, j'ai une orthèse. Mais au quotidien, c'est beaucoup plus difficile pour moi de marcher de façon normale. Je suis essoufflé très vite. Les escaliers, c'est un calvaire. L'équilibre est compromis parce qu'on est en fait le muscle de l'équilibre. Enfin, les muscles qui permettent entre autres l'équilibre et la posture, c'est les grands fessiers. Et donc, forcément, quand on n'a pas un, il faut que ce soit d'autres muscles qui prennent le relais, mais ils ne sont pas aussi forts et ce n'est pas leur fonction. Et puis il y a en plus tout ce qui est douleur neuropathique, donc tout ce qui atteint le système nerveux. Même si mon nerf finalement a été sectionné et donc est mort, on a ce qu'on appelle la douleur fantôme, en fait, où on ressent le schéma du nerf alors qu'il ne fonctionne plus.
Donc demain, malgré tout, vous serez sur les Champs-Élysées pour défiler aux côtés de 26 autres soldats blessés. J'imagine que c'est une reconnaissance symbolique importante pour vous.
Déjà, c'est une énorme fierté de pouvoir... me tenir debout à côté de ces champions, parce que c'est, en plus d'être des blessés, c'est des personnels c'est des gens extraordinaires, parce qu'ils ont réussi à surpasser cette blessure physique ou mentale pour revenir encore plus fort et donc accomplir des choses incroyables au niveau sportif. Et ça permet encore aujourd'hui de représenter notre pays, ce qui est quand même la base de notre engagement, même en étant blessé. Et oui, c'est une immense fierté de pouvoir être, faire partie de ce défilé en étant dernier tableau. Donc on arrive comme le dessert. C'est ce qu'on se souvient le mieux la plupart du temps. Et c'est un énorme pas en avant parce que il n'y a pas si longtemps, les blessés, on n'en parlait pas. Ensuite, on en parlait peu. Et on commence à en parler. Et c'est important d'en parler parce qu'on en a besoin. Voilà, la vie ne s'arrête pas parce qu'on est blessé et on arrive encore à faire des choses très bien. On est encore des ambassadeurs de notre pays, on est encore des ambassadeurs de nos armées, même en étant blessé.
Eh bien, on est ravis d'en avoir parlé grâce à vous ce soir sur Europe 1. Merci, merci Maréchal des Logis chef Guillaume d'avoir été en ligne. Et bon défilé donc demain sur les Champs-Élysées, défilé que nous vous ferons vivre bien sûr sur notre antenne.
Merci.
Et on reste dans la thématique du 14 juillet dans un instant avec notre invité média Julien Bugier, le joker du 20h de France 2 cet été, à la tête d'une édition spéciale demain matin 14 juillet. Reportage embedded, comme on dit au Mali, et saut en parachute à Paris, il nous dira tout.
18h-19h, votre grand journal du soir avec Sébastien Guyot sur Europe 1.
18h41, votre grand journal du soir se poursuit et Sébastien Guyot, on ouvre une page média.
Bonsoir Julien Bugier.
Bonsoir.
Bienvenue sur Europe 1, ça y est, c'est l'été Bugier, hein, comme chaque année, presque sur France 2. Vous êtes partout, on vous a vu cette semaine présenter une émission consacrée au premier pas de l'homme sur la Lune.
Pas mal d'ailleurs.
Demain, qui était très bien, absolument. Demain spécial 14 juillet, vous en avez l'habitude. Et à partir de lundi, vous serez aux commandes du 20h. Prêt pour le marathon, pas trop de pression?
C'est pas vraiment un marathon parce que le marathon il commence en septembre et il se termine en septembre. Voilà, donc toute l'année, comme j'ai beaucoup de rendez-vous maintenant, des émissions très différentes, tout compte fait sur la conso et l'écho, les grands débats, les moments de communion nationale comme le 14 juillet, les émissions d'accompagnement aussi de documentaires comme ce qu'on a fait sur la Lune il y a quelques jours qui était un vrai succès. Moi j'ai appris plein de choses. Donc toute l'année en fait j'ai un agenda qui est bien rempli, donc c'est une continuité. Après c'est vrai que c'est un marathon dans le sens où je m'installe dans le fauteuil du 20h, ce qui est un exercice particulier, mais qui est un exercice que, évidemment, j'adore parce que c'est mon ADN,
News. Avant ça, demain matin, 7h du matin, vous serez sur le pont pour une spéciale 14 juillet sur France 2, aux côtés de Marie-Sophie Lacaro. Les spéciales, vous en êtes devenu le spécialiste. Le 14 juillet, débarquement de Normandie, il y a peu, des heures et des heures d'antenne non-stop. Qu'est-ce que vous appréciez dans l'exercice?
Des heures d'antenne, mais au service du public, et c'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est faire apprendre et partager. D'abord, se retrouver autour de moments comme ça qui sont encore une fois des moments de communion nationale. Le 14 juillet en est un, les 75 ans du débarquement en est un autre. Ce sont des moments d'histoire et moi, j'aime bien transmettre. Mmh. Je fais aussi ce métier pour avoir des émotions et pour transmettre ces émotions et les rencontres. Et transmettre l'histoire, voilà, je pense que dans les temps aujourd'hui un peu fracturés, avec les vents contraires qui soufflent parfois sur l'Europe et la France, je pense que c'est important qu'on se retrouve aussi autour de moments d'histoire et de moments de communion nationale. Donc, il y aura Marie-Sophie Lacaro, il y a Michel Drucker, il y a Pierre Servant, évidemment, notre consultant militaire.
Qui a pénétré dans le bureau des légendes, hein, la DGSE.
La DGSE, oui, ça va être une séquence assez inédite. Il a réussi à s'inviter, entre guillemets, dans le bureau des légendes. C'est vrai, en référence à la série formidable avec Mathieu Kassovitz sur Canal+, qui avait été diffusée il y a quelques temps. Et donc, on pénètre ces locaux. C'est tout à fait inédit parce qu'habituellement, c'est secret défense, évidemment. Et il a réussi à s'entretenir avec des agents secrets qui vont nous raconter, autant que faire se peut, leur mission, leurs objectifs. Donc, Pierre Servant, Stéphane Bern, qui nous fera partager aussi les grandes batailles historiques des armées françaises. Voilà, donc plein de surprises.
Et il y a d'autres histoires que vous allez raconter. Vous allez être sur le terrain. Vous êtes parti au Mali, auprès des forces spéciales. Vous dites que c'était compliqué. Vous avez eu peur? Vous étiez en première ligne?
Alors, on a rencontré des forces spéciales. On a aussi été beaucoup avec les militaires classiques, entre guillemets, si tant est qu'il y ait des militaires qui soient classiques. Moi, j'ai été frappé par leur engagement. Parce que, quand on est arrivé, vous savez, c'était au moment où il y a eu la libération des deux otages au sud du Burkina Faso, avec la mort des deux forces spéciales. Mmh. Et il y a eu un hommage sur place, sur la base. Vous voyez, quand j'en parle, j'ai encore des trémolos dans la voix parce que c'est un moment d'émotion immense. Moi, j'avais jamais vécu ça. Et on se rend compte à quel point il y a la force de l'engagement, mais il y a aussi la force du sacrifice qui est présent à chaque instant et dans toutes les têtes. Donc, c'est ça que j'ai essayé de faire partager aux téléspectateurs à travers les sujets qu'on a réalisés. On en a fait trois. qui sont assez longs, des sujets en longueur, et qui seront diffusés effectivement pendant les deux premières heures de notre spécial 14 juillet.
Et vous en revenez changer en vous disant il faut s'engager, les Français doivent s'engager davantage, que ce soit avec l'armée ou autrement.
Moi, vous savez, je suis comme le président Macron. Je fais partie de cette génération.
Vous savez pas où je vais vous emmener dans la rue. Attention.
J'ai pas fait le service militaire, c'est ça que je voulais dire.
Et en même temps.
J'ai pas fait le service militaire et en même temps, j'ai une grande admiration pour ce que font ces types, ce que font ces femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes. Il y a une grande féminisation maintenant dans les armées. D'ailleurs, c'est ce qu'on verra aussi dans les reportages. Et oui, ça interroge, ça questionne chacun d'entre nous sur quel est son engagement personnel. Qu'est-ce qu'on fait au service des autres, au service de son pays, au service de la République quand on aime ce beau pays qu'est la France. Donc on en revient un peu changé, absolument.
Demain, ça sera donc une nouvelle fois le 14 juillet pour vous. Combien de cérémonies déjà ?
C'est mon troisième 14 juillet.
Troisième édition. Donc on est loin des 16-14 juillet de Léon Zitrone. C'est pas votre objectif de devenir Léon Zitrone du 21e siècle.
En tout cas, c'est très flatteur d'être comparé à Léon Zitrone parce que ça fait partie de mes modèles dans un autre genre. Mais voilà, quel personnage quand même. Et quelle longévité en télévision, ce qui n'est pas toujours facile.
Alors vous avez de l'ambition, vous ne vous en cachez pas. 37 ans, vous êtes à la tête des spéciales de France 2, joker du JT de 20h. On vous retrouvera donc lundi soir pour la première. Longtemps, devenir numéro 1 du 20h a été mon but ultime. C'est ce que vous avez déclaré à ce micro même avec Philippe Vandel au mois de mars. C'est plus le cas ?
Non, parce que maintenant, d'abord, je grandis. Il y a la patine de l'âge aussi, même si j'ai encore de belles années devant moi. Voilà, 37 ans. Mais c'est vrai que quand on est jeune, on est un peu chien fou. On est plein d'ambition. J'en ai encore plein de l'ambition. Mais voilà, on veut devenir numéro 1 à la place du calife. Et puis, on apprend aussi à faire ce métier et à retrouver la raison pour laquelle on a fait ce métier. Et moi, la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce métier, c'est les rencontres, c'est la curiosité. Encore une fois, c'est faire partager des émotions, faire partager être un passeur d'une certaine manière en faisant mon boulot. Évidemment du mieux possible parce que c'est aussi ce qu'attendent de nous les gens qui nous regardent, mais ce boulot je le fais d'abord pour les autres et le 20h est un exercice dans lequel on peut le faire, mais il y a plein d'autres choses.
Mais il y a des codes dans le 20h, là vous dites je m'installe pour l'été, je vais pouvoir y mettre ma patte, la patte Bugier c'est quoi pour dépoussiérer un 20h peut-être un peu vieillissant, qui attire de moins en moins de monde. Vous avez perdu des auditeurs cette année, des téléspectateurs même chez vous en télévision.
Écoutez, j'ai pas les chiffres en tête, mais en tout cas
c'est 310 000 de moins sur l'année.
On a un 20h qui se tient très très bien. Voilà, je pense qu'il a été largement dépoussiéré depuis un certain temps. Je pense qu'Anne-Sophie a aussi mis sa patte, puisqu'on
Anne-Sophie
parle de patte. Il y a des rendez-vous qui sont maintenant devenus des incontournables, comme l'œil du 20h, comme faux et usage de faux, qui est une rubrique de décryptage des fake news, les longs formats, les enquêtes, les immersions, les sujets incarnés. Donc cette modernisation, elle apparaît et elle existe.
Et ça permet d'attirer de jeunes téléspectateurs, parce que c'est
en
vieillissant
tout cas, c'est
forcément.
Mais on va pas se raconter de salade. Hein. Les jeunes, ils sont plus du tout ni à la radio, ni à la télévision. Donc maintenant, notre enjeu, tous collectivement, c'est de réussir à les ramener avec des formes peut-être différentes et en s'intéressant aussi peut-être au code des nouvelles générations, en gardant ce qui fait aussi quand même notre ADN, c'est-à-dire la rigueur et l'exigence de l'information. Voilà, parce que encore une fois, ce métier, on le fait au service des autres. Mais le 20h, pour revenir sur quelques chiffres, parce que j'en ai quand même, regardez le 20h de France 2 il y a 15 ans et aujourd'hui, il n'a quasiment pas perdu de téléspectateurs sur l'ensemble de ces 15 années, alors que nos concurrents ont diminué de moitié leur nombre de téléspectateurs. Donc après les chiffres, on peut leur faire
Bugier,
dire un peu ce qu'on
éternel
veut.
Éternel optimiste, très bien. Alors il y a le 20h, mais il y a aussi votre émission d'économie tous les samedis à 14h, tout compte fait, avec même un prime en rentrée.
Voilà, il y aura un prime, ça c'est une belle surprise que je prépare aux gens qui aiment l'émission et puis à ceux qui vont sans doute nous découvrir. Un grand prime qui sera consacré à l'alimentation, aux nouvelles formes d'alimentation, je vous en dis pas plus, mais on a vraiment sillonné la France pour aller à la rencontre de ceux qui inventent de nouveaux modèles. Moi vous savez que j'aime bien mettre en avant ceux qui font, parce que je pense que notre territoire, il faut arrêter de broyer du noir, notre territoire il regorge de talents, il regorge d'initiatives, il regorge de gens qui font des choses et dont on parle pas assez souvent. Ben, cette émission sera en partie là pour tenter de leur donner la parole.
En septembre ?
Ça sera à la fin de l'été.
Mais un prime en tout cas. Merci Julien Bugier d'être
Merci
passé
de votre invitation.
Dans les studios d'Europe 1. Et puis bonne matinale, bonne spéciale demain pour le 14 juillet. Bonne
Merci.
Été. Dans un instant, vos régions sur un plateau. Tout cet été, Marion Sauveur va faire le tour des spécialités culinaires françaises. Non seulement vous allez tout connaître sur l'histoire des plats, mais en plus, nous appellerons un chef pour revisiter ses recettes ancestrales, ça promet.
Et le
suite de votre grand journal du soir, Sébastien Guyot.
Et on accueille Marion Sauveur. Bonsoir Marion.
Bonsoir.
Tout l'été, vous allez nous faire découvrir des spécialités de nos belles régions de France. Où est-ce que vous nous emmenez aujourd'hui?
Allez au soleil. Allez,
le beau rouge, belle. Oh, vu l'accent, ça sent Marseille.
Eh oui,
le sud.
Exactement, sur le vieux port, là où les pêcheurs vendent chaque jour leur pêche de la veille. Et c'est donc là que l'on achète les poissons pour faire la recette emblématique de Marseille.
La bouillabaisse.
Voilà, exactement. C'est un plat de pêcheurs réalisé avec leurs invendus. Il est servi en deux temps. D'abord, un bouillon très goûtu, versé sur des tranches ou des croûtons de pain aillés, bien sûr. Imbibé à l'huile d'olive et tartiné de rouille. Et ensuite, d'un plat de poissons à partager. C'est très convivial.
Et pas mal.
Et oui, délicieux.
8h53, on a faim.
Alors, sur le Vieux-Port, j'ai rencontré Emmanuel Perraudin, un cuisinier itinérant et une véritable bible de la cuisine méditerranéenne. Et aussi surprenant que ce soit, il m'a raconté que la bouillabaisse n'est pas originaire de Marseille.
Ah bon ?
Il semblerait qu'elle ne soit pas née à Marseille. Je sais que je ne vais pas me faire des amis là aujourd'hui. Parce que la première trace écrite en fait de bouillabaisse, on la trouve au début du 19e siècle et elle est évoquée à Martigues. La bouillabaisse, ce qui en a fait vraiment la réussite et l'importance sur ce territoire-là, c'est que c'est un pacte entre l'histoire, les hommes et la nature. Une des spécificités de la cuisine provençale et méditerranéenne, c'est justement d'avoir conscience de ces cycles naturels en fait. Dans les années 80, des restaurateurs marseillais se sont réunis pour créer une charte de la bouillabaisse. Ils voulaient lutter contre le développement la prolifération des poissons surgelés dans la bouillabaisse.
Et oui, il y a des règles hein, pour réaliser cette véritable bouillabaisse. Du poisson frais, mais pas n'importe lequel. Du congre, que l'on appelle filasse à Marseille, et qui va permettre d'épaissir le bouillon grâce à sa chair qui est très dense. Mais aussi de la rascasse qui donne ce goût si corsé à cette bouillabaisse. Et puis la vive araignée, le chapon, la rascasse blanche. Et puis on peut y ajouter aussi des poissons de roche, c'est délicieux. Mais surtout pas de crustacés, ils ne figurent pas dans la recette traditionnelle. Ah oui, il y a des règles, je vous l'ai dit. Et pourtant, au 19e siècle, il y avait par exemple des cigales de mer dans les recettes. Et ça a donc beaucoup évolué.
Alors Mario, comment on réalise la bonne bouillabaisse?
Alors on fait d'abord revenir les éléments aromatiques avant d'ajouter des tomates, du safran. Certains ajoutent même des pommes de terre, mais ça c'est une autre histoire. On mouille à hauteur pour réaliser le bouillon. On y met les poissons et dès que le bouillon bout, on baisse le feu. C'est ce qui lui a donné son nom d'ailleurs. Quand ça bouille, on abaisse.
Ah, très bien.
Je vous le fais pas avec l'accent, pardon. Le chef Emmanuel Perraudin m'a donné ses techniques pour la réussir. Écoutez.
La principale astuce, c'est de d'abord bien faire revenir les légumes. Essentiellement du poireau, de l'ail, un peu d'oignon. Après, on peut rajouter aussi un ou deux zestes d'orange, c'est très bien. Ça va apporter un peu de vivacité, même si je sais que tout le monde ne partage pas cette histoire. Ça, c'est une première chose, bien faire revenir ça, quasiment en purée. Ensuite, on mouille avec un peu d'eau. Et après, l'attention apportée au poisson, en fonction de la densité de chair. On va commencer par le filasse, qui est la chair la plus dense. On laisse passer quelques minutes pour ajouter poisson par poisson, jusqu'au plus fragile qu'on mettra au dernier moment. C'est cette attention-là, en fait, qui est essentielle. On ne peut pas vraiment donner en fait, de minutage, c'est impossible, parce que ça va vraiment dépendre du poisson qu'on va trouver le matin. Et la beauté de ce plat-là, c'est qu'il faut l'apprivoiser.
Et il y a un chef qui l'a apprivoisé, cette bouillabaisse, c'est Lionel Lévy, marseillais de cœur. Il dirige les trois tables de l'Intercontinental à Marseille. Il propose à la carte de la brasserie Les Fenêtres une bouillabaisse revisitée. Et quelle revisite, vous allez l'entendre. Bonjour Lionel Lévy.
Bonsoir.
Vous allez
bonsoir.
Bien
très très bien, impeccable au soleil.
Une étoile Michelin et vous revisitez vous la bouillabaisse sous forme, ah là là, attention, de mille chèques. Expliquez-nous comment vous vous y prenez.
Oui, alors j'aime pas trop le mot revisiter, c'est une interprétation, n'étant pas marseillais d'origine. Donc j'ai eu, après une grande discussion avec des clients qui habitaient New York, la volonté de faire une bouillabaisse complètement retravaillée. Donc en fait, je dresse ça dans un grand verre, un verre à milkshake. Donc au fond du verre, je mets ma sauce rouille, donc ce petit condiment de pulpe de pommes de terre, ail, monté à l'huile d'olive, dans lequel j'incorpore soit un foie de rouget, soit un foie de rascasse qui va me permettre de donner vraiment ce goût iodé et très puissant. Par-dessus, je vais faire une émulsion comme une brouillade d'œuf, mais très légère, c'est-à-dire à peine cuite, avec du mascarpone et de l'huile d'olive pour vraiment adoucir la force de cette rouille. Je vais y plonger un morceau de poisson poché. Alors, ça dépendra de ce que je trouve.
Oui, lequel ?
Soit un morceau de loup, soit un morceau de dorade, soit un morceau de chapon que j'aurais fait pocher au préalable dans ma soupe de poisson. Et par-dessus, je vais mettre une écume de soupe de poisson, donc émulsifier ma soupe de poisson avec un petit mixeur, mettre que l'écume. Donc il faut une soupe de poisson très très dense, très forte en goût, parce qu'on va y mettre vraiment que l'écume. Et je vais, pour remplacer, parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui mettent un petit peu de croûtons, un petit peu de fromage, donc pour remplacer ces croûtons, je vais mettre une petite tuile en parmesan parsemée de chapelure de pain aillé. Voilà, et vous dégustez cette bouillabaisse dans un verre comme un milkshake.
Ça donne envie, Lionel Lévy, mais en deux mots quand même, les Marseillais sont attachés à la tradition. Comment vous osez vous y attaquer? Est-ce qu'ils vous agressent derrière? Non, quand même pas. Hein.
Alors,
ils vous remercient.
C'est vrai qu'il y a en 2004, quand j'ai lancé ce plat, c'est vrai qu'au début, ça a été un petit peu, on va dire, rude avec certaines Marseillaises du port qui ne comprenaient pas. Et une fois qu'elles l'ont goûté, elles m'ont dit: Amino, tu fais bien la bouillabaisse quand même. Donc ça a été la plus belle des récompenses. Mais c'est vrai qu'au début, ça a été un petit peu choquant. Mais du moment qu'on part sur la recette traditionnelle, après on peut la réinterpréter comme on veut.
Merci.
Marseille, c'est un port. Hein. C'est un port où il y a beaucoup de mélange. Donc on accepte la différence.
Merci Lionel Lévy pour vos explications. On peut goûter votre milkshake de bouillabaisse à la brasserie Les Fenêtres pour 20 euros. Et demain, Marion, vous nous emmenez dans une autre région de France.
Et oui, en Alsace, et on ira déguster la flammekuche.
Ah, ça promet.
Merci
Marion, on en reparlera.
Vous saurez tout demain.
Vos régions sur un plateau, c'est votre rendez-vous gourmand tous les week-ends cet été, peu avant 19h.
Europe 1.
Dans un instant, le journal de Fabienne Lemoile. Et juste après, comme chaque soir jusqu'à 20h, le Club Tour. Bonsoir Axel May.
Bonsoir Sébastien.
Vous êtes à Saint-Étienne, où un Français est en jaune ce soir.
Exactement, un Français en jaune, Julian Alaphilippe. Ça veut dire que demain, jour du 14 juillet, le public français pourra facilement repérer Julian Alaphilippe. La victoire d'étape est revenue au Belge Thomas de Rent. On va parler de tout ça et puis aussi de la chute de Geraint Thomas et surtout de Thibaut Pinot qui est désormais troisième au général. On va en parler avec Thomas Voeckler, Patrick Chassé et puis nos invités notamment. Je vous présenterai un homme qui adore le vélo, il a 68 ans, c'est un fondu de vélo, il est stéphanois et il vaut le détour. Vous pourrez voir et écouter tout ça à partir de 19h10.
Débrief, perspective et débat dans un instant. Merci Axel May.
Oh, Europe 1. Il est 19h.
Sur Europe 1.